franceinter.fr.
Ils ont extrait l'ADN de momies égyptiennes qui ont traversé 1800 ans d'histoire. Ils sont parvenus à reconstituer le génome de 3 individus. C'est une première réalisée par des chercheurs de l'Institut Max Planck et de l'Université de Tübingen en Allemagne. Et c'est aujourd'hui à la une de la science avec une étude qui vient de paraître dans Nature Communication. Étude qui révèle qu'au cours du premier millénaire avant notre ère, le métissage avec des peuples voisins d'Asie et d'Europe était plus présent que chez les Égyptiens actuels. Philippe Charlier, vous êtes en ligne avec nous pour commenter cette étude. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes médecin légiste et archéo-anthropologue à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est la première fois qu'on parvient à extraire de l'ADN sur des momies?
Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on parvient à en extraire autant, sur autant d'individus et avec le maximum d'informations. C'est-à-dire toujours d'habitude sur des momies égyptiennes, on se demande s'il n'y a pas des problèmes de contamination. Des contaminations par les mains principalement de tous les archéologues, de tous les chercheurs qui les ont touchés. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un ADN qui est extrêmement pur, qui a été étudié par mes collègues du Max Planck, avec des informations extrêmement pertinentes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, extraire de l'ADN sur des momies égyptiennes, c'est très bien conservé, une momie égyptienne, c'est très beau, les tissus sont parfaits, mais l'ADN, il est complètement abîmé, voire même parfois recouvert d'une gangue de produits d'embaumement qui gênent énormément l'extraction de l'ADN.
De produits muséaux aussi, de produits chimiques?
Oui, aussi des produits muséaux, les produits de conservation, tout à fait. Tout ça, ça gêne tout le travail de la paléogénétique et ça fragmente l'ADN qui était déjà en assez mauvais état, ou alors ça empêche aux enzymes, notamment la stack polymérase, de remultiplier cet ADN et de le rendre utile aux chercheurs.
Alors comment se fait-il que là, en l'occurrence avec ces momies, l'ADN ait été encore en bon état de conservation?
D'abord, ils ont travaillé sur beaucoup de momies, 160. Là-dessus, ils ont réussi à extraire de l'ADN sur 155. Sur ce total, 90 ont été étudiés. Ils n'ont pas réussi à en extraire sur tout, mais eh bien, ils ont utilisé des nouvelles technologies, des technologies extrêmement poussées, notamment inspirées de la médecine légale et de la médecine en général. C'est vraiment l'intérêt de cette interaction entre les disciplines des sciences humaines et des sciences fondamentales.
Donc, ils ont réussi à bien déterminer que cet ADN était celui de ces Égyptiens anciens et non pas celui né d'une contamination quelconque comme c'était le cas jusqu'à présent.
On est sûr et certain que l'ADN étudié, c'est pas l'ADN des chercheurs, c'est pas l'ADN des fouilleurs, notamment les Égyptiens modernes qui ont fouillé cette nécropole. C'est vraiment l'ADN provenant des anciens Égyptiens, autant de l'Antiquité que de l'époque grecque ou romaine. Donc ça, c'est quand même pas une première, mais c'est une grande gageure à la fois scientifique et technique. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant.
Ces momies, elles ont traversé 1800 ans d'histoire, des conquêtes innombrables de Perses, de Grecs, de Romains, il y a eu Alexandre le Grand notamment. Et donc, comment cela s'est traduit sur le plan génétique?
Sur le plan génétique, on se rend compte que, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a énormément de mouvements de population. La population, subsaharienne, c'est-à-dire à peau noire, qui a peuplé majoritairement ces populations d'Égypte, eh bien, sur l'échantillon qui vient peupler, si on peut dire, cette étude, il vient d'une période très tardive. Il vient du 8e, 9e siècle. Avant, il y a relativement peu de mouvements de population, ou alors ce sont des zones qui sont locales, qui viennent du Levant, principalement, c'est-à-dire du Proche-Orient. Mais tout cet afflux massif de population à peau noire vient principalement de la période post-romaine, c'est-à-dire du 8e, 9e siècle après Jésus-Christ, après la chute de l'Empire romain en Égypte. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Alors, les archéologues ont essayé de réfléchir avec les généticiens et avec les historiens pour essayer de comprendre pourquoi. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est une période à laquelle il y avait énormément d'esclavage qui était en cours. Et quand on dit une population subsaharienne, eh bien, la comparaison sur le plan génétique avec des populations actuelles de référence montre qu'il s'agit de peuples qui sont au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal et même jusqu'en Afrique du Sud. Donc ce sont des populations qui sont extrêmement lointaines et qui vont se retrouver vers le 8e, 9e siècle sur le bord du Nil et qui vont y rester pour constituer ce qu'on appelle le pool égyptien actuel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est novateur. Mais il y a une toute petite limite à cette étude-là. On est sûr que c'est le bon ADN, on est sûr qu'il n'y a pas de biais d'étude ou d'analyse. Le seul petit problème, c'est que toutes ces momies, ces 155 momies, elles viennent d'un seul site archéologique. Alors est-ce que ces conclusions, elles sont propres uniquement à ce site archéologique ou est-ce qu'elles peuvent également être extrapolées à l'ensemble de la population de l'Égypte? Eh bien, certainement, il faudra faire d'autres études génétiques complémentaires pour le savoir.
Est-ce qu'il y aura d'autres ADN possibles, selon vous, à extraire, Philippe Charlier?
Super intéressant, c'est d'extraire non pas de l'ADN humain, mais d'extraire de l'ADN de maladies infectieuses, pour savoir si ces populations viennent également avec des agents infectieux et si elles modifient la lèpre, si elles modifient la tuberculose, si elles modifient la peste et d'autres agents infectieux. Un homme ne vient jamais seul. Un homme, il vient avec ses parasites, et il vient notamment avec les parasites qu'il a dans le sang, dans les urines, dans la peau, dans les cheveux, etc. Donc ça serait particulièrement intéressant. Je ne doute pas que les chercheurs vont travailler dessus.
Merci en tout cas pour votre éclairage, Philippe Charlier. Je signale que votre ouvrage le plus récent s'appelle « Ouvrez quelques cadavres, une anthropologie médicale du corps mort » et il est sorti aux éditions Buchet-Chastel. Merci Philippe Charlier, à très bientôt.
Merci Mathieu, au revoir.
Et Agnès, à bientôt également.
À bientôt.
Au revoir.